Bonsoir et merci beaucoup de votre présence nombreuse ce soir ici. Nous sommes très très heureux d'accueillir la revue Poésie, Claude Mouchard et les poètes qui vont nous rejoindre ici, qui viennent de Corée, ainsi que la traductrice que présentera Claude Mouchard et monsieur qui est également, qui accompagne également les poètes, qui est critique en Corée. Nous remercions également la fondation Daisa, c'est comme ça qu'il faut dire, oui, qui a pris en charge en Corée l'essentiel de cette manifestation, qui a commencé donc à Paris avec la revue Poésie, avec plusieurs, toute une tournée de ces poètes autour de Paris, en France. Et nous arrivons donc à la fin de cette manifestation avec la soirée genevoise. Nous sommes extrêmement, extrêmement heureux qu'elle puisse se passer ici. Voilà, je voulais simplement dire deux mots sur la revue Poésie et Claude Mouchard, qui en est co-directeur avec le poète Michel Deguy. Martin Rueff est également membre du comité de rédaction de cette revue prestigieuse donc consacre son numéro de ce mois-ci, pardon, c'est celui-ci, à la Corée, Corée 2012, avec un dossier qui est vraiment magnifique, impressionnant, sur la poésie vivante en Corée, et également avec des articles de présentation sur les œuvres, sur des romanciers de Corée contemporaine. Je voulais aussi dire qu'il y a que le courrier d'aujourd'hui consacre deux pages à cette manifestation et à l'interview de Claude Mouchard par Anne Titlou. Voilà, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a là aussi quelque chose d'un article tout à fait intéressant. Claude Mouchard est donc poète lui-même, critique remarquable, et il enseigne à Paris 8, il est professeur émérite à Paris 8. Claude Mouchard est également un spécialiste de la Corée dans la mesure où il a beaucoup de contacts avec la littérature coréenne et les poètes coréens depuis plusieurs années, il s'y rend souvent. Il a été marqué par la guerre de Corée enfant, qui donc s'est déclenchée 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a quelque chose qui remonte, semble-t-il, très loin dans son passé émotionnel, dans son rapport à la Corée. Voilà, donc c'est lui qui va conduire avec Martin Rueff cette soirée, et je vous la souhaite excellente. Merci beaucoup.
Merci. 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 Mais sur ce que vient de dire Sylviane Dupuis, je voudrais ajouter qu'il y a ici, je ne le vois pas parce que je ne le vois pas, un journaliste coréen qui accompagne, il est là-bas, où est-il? Il est là-bas, il prend des photos, oui. il accompagne toute la tournée, si j'ose dire, et il y a trois articles qui sont parus, qui vont paraître dans un quotidien coréen sur cette tournée. C'est-à-dire l'importance qu'en Corée, on peut accorder à ce genre d'événement. Voilà. Martin.
Oui, donc je vais dire quelques mots de la revue, pas de ce numéro en particulier, bien que j'essaierai de montrer en quoi il s'inscrit dans notre programme général de poétique. Donc c'est le numéro 139-140 de la revue. Comme vous voyez, c'est un numéro qui fait pratiquement 300 pages. Et la revue Poésie, donc, qui a maintenant pratiquement 40 ans, donc animé par Michel Deguy, par Claude Mouchard, moi-même et un comité important. Comme vous le remarquez, si vous ne la connaissez pas, c'est une revue dont le titre, qui avait été voulu par Deguy, inscrit dans le mot poésie une conjonction. C'est poésie. Alors, ce n'est pas simplement une astuce de poète, même si elle est bonne, c'est un véritable programme, et on n'hésite pas à dire chez nous, dans la revue, que c'est un programme qui est à la fois poétique et politique. Votre présence ici témoigne du fait qu'il y a encore de la place pour la poésie, qu'il y a encore de la place pour un débat autour de la poésie, qu'il y a encore de la place dans nos vies et dans l'expression de nos existences pour la poésie. Et cette conjonction qui est au cœur de la revue, qui est au cœur du programme de la revue, elle signifie plusieurs choses. Et j'aimerais dire cela avant d'en venir à ce numéro. Bon, évidemment, la première chose à dire, c'est que ce numéro, Corée 2012, est exceptionnellement un numéro de conjonction, parce qu'il est très rare qu'on fasse des numéros qui soient des numéros complètement thématiques. J'en dirai un mot dans un instant. La plupart du temps, je vous ai apporté un numéro standard, hein, on a un numéro qui se compose de poèmes français, de poèmes traduits, et puis ce qu'il y a de caractéristique dans la revue de poésie, c'est que, en fait, on marche sur trois pieds, hein, c'est une conjonction qui est plutôt sur trois pieds que sur deux, hein. Il y a la poésie française, la traduction, à laquelle on fait une part énorme, considérable, hein, et la traduction, la retraduction, l'effet de la traduction sur la poétique des poètes français, l'effet des poètes français sur d'autres poésies étrangères. Un cas typique, hein, je le dis parce que Mathilde Duchard est là, hein, c'est qu'on a fait des dossiers sur des poètes qui s'entretraduisent. Hein, par exemple, Ungaretti, traducteur d'Apollinaire, traduit par Celan, traduit aussi par Bachmann, et qu'est-ce que ça veut dire pour la poésie d'Ungaretti, etc. etc. Bon. Donc, poésie française et poésie traduite. Cette conjonction, elle est si puissante dans la revue que maintenant, on n'arrive même plus à dire parfois dans quelle section de la revue il faut mettre les poèmes. C'est-à-dire, est-ce que c'est des poèmes français? On ne s'en souvient même plus, tellement la question est devenue complexe. L'autre, le troisième, si vous voulez, pied de la revue, et ça on y tient beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la revue a un public qui n'est pas simplement un public de poètes, c'est qu'on accorde une place déterminante à la poétique, à la question de la poétique. Mais pas la poétique dans sa dimension rhétorique, c'est-à-dire ce que parfois les écoliers entendent par poétique, les figures de style, etc., mais même s'il y a des choses là-dessus dans la revue aussi, mais à qu'est-ce que ça veut dire faire du poème aujourd'hui? Pourquoi exprimer un certain état du monde et un certain état du sujet à travers la forme poétique? Alors je dis ça avec d'autant plus d'emphase, hein, d'importance, que on est la seule revue de poésie à faire ça, si vous voulez. La plupart des revues de poésie sont des revues dans lesquelles il y a des poèmes. Nous, on ne se contente pas de donner des poèmes, on essaie aussi, et le numéro Corée, peut-être de manière plus illustre, hein, d'accompagner les poèmes. Voilà. Ce qu'on dit toujours, nous, c'est que aujourd'hui, hein, la poésie ne s'impose plus au lecteur. Alors, bon, vous êtes là, peut-être qu'on pourrait dire le contraire, mais bon, elle ne s'impose plus au lecteur, elle a besoin d'un discours d'escorte. Le roman, aujourd'hui, n'a pas besoin de se justifier. Si vous publiez un roman, personne ne vous demande mais pourquoi vous faites du roman. Si vous publiez de la poésie aujourd'hui, les gens vous disent mais pourquoi vous faites du poème et pas du roman. Donc, preuve est faite, hein, qu'il faut escorter la poésie, et notre revue est une revue d'escorte aussi du poème. Alors, à côté de ces numéros traditionnels, hein, généralement il y en a trois par an de ce type-là, on fait des numéros, disons, thématiques, des numéros géographiques, et il y a eu quatre livraisons exceptionnelles. Hein. Il y a eu un premier numéro Corée en 99, que Claude déjà avait animé. Il y a eu un numéro tout à fait phare de la revue qui était le numéro 100, qui était le numéro Japon. Et puis, en 2004, on a fait... un numéro double de pratiquement 700 pages sur la poésie italienne contemporaine. Alors, évidemment, ces numéros nous demandent généralement 2-3 ans de travail, mais ils font beaucoup pour la renommée de la revue parce qu'ils nous gagnent, hein, des publics, d'autres types de publics. Et c'était symbolique, on voulait, Claude voulait que ce fût le cas. Le numéro 139-140, hein, on est assez attaché, disons, aux chiffres comme ça, un peu... Un bon 150, c'est pas ce qu'on fera, peut-être un numéro mouchard.
Ah oui, oui, oui.
Un numéro sur toi.
S'il te plaît, tout le monde te l'a dit, c'est
voilà,
tout.
Voilà, c'est fait. On fera, voilà, on a décidé avec Claude, hein, et tout le comité, hein, de consacrer ce numéro donc, à la Corée. Et le titre, hein, est tout à fait typique de la revue, Corée 2012. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire écrire des poèmes en Corée aujourd'hui en 2012, et qu'est-ce que ça veut dire pour la Corée en 2012, hein, de recevoir des poèmes. Voilà. Et l'idée est toujours la même, hein, c'est l'idée qu'on aime rappeler que T.S. Eliot développe dans un essai fameux, hein, quand il disait, voilà, moi j'ai compris ce que je voulais faire en anglais en lisant ce que Baudelaire avait fait en français. Voilà. Ce qui veut dire une chose très profonde, c'est que ça ne sert à rien de traduire la poésie pour, disons, visée touristique, ça ne nous intéresse pas, nous. Ce qui nous intéresse, c'est de faire rentrer la poésie coréenne dans la poésie française. Et qu'il y a un effet de la poétique coréenne dans la poésie française aujourd'hui. Si ce n'est pas ça, ça sert strictement à rien. Voilà. C'est fini.
Merci. Alors, merci, Martin. C'est exactement tout ce que tu as dit, évidemment, je le partage complètement. Merci à Sylvie Dupuis, qui est là, et qui nous accueille, et dans cette magnifique maison de Rousseau et de la littérature, c'est comme ça.
C'est ça. Oui.
Voilà. Nous sommes une petite équipe, là, vous voyez, qui a circulé depuis 8 jours. Nous sommes allés au château de Chambord. C'était assez, une circonstance assez extraordinaire. Ensuite, à Paris, nous avons fait 2 lectures, et puis encore une autre rencontre. Et voilà, nous sommes très, très heureux de terminer ici. Demain, fin d'après-midi, nos amis coréens reprendront l'avion pour Paris, et de là, immédiatement, pour Séoul. Tant du monde, la Corée. C'est un vers de Vittorio Sereni, du poète italien Sereni, grand poète italien. Et ce vers a été écrit au temps de la guerre de Corée, 1950-53. Sylvain Dupuis a évoqué un propos que j'ai tenu un peu naïvement sur l'enfant que j'étais alors, l'effet qu'a pu faire le déclenchement de la guerre de Corée, qui paraissait en 1950 comme le début d'une troisième guerre mondiale, comme presque tout le monde l'a pensé à ce moment-là. En tout cas, en Corée, ça a été un ravage épouvantable, une catastrophe complète, et en 1953, la Corée était quasiment anéantie. J'ai connu des poètes, je connais des poètes, qui ont vécu ça. Et ce qui est extraordinaire, évidemment, c'est que la Corée du Sud, car ensuite c'est la division de la Corée, comme vous savez, division qui persiste aujourd'hui et qui reste quelque chose de dramatique. Mais la Corée du Sud, c'est vrai, tout d'un coup, pas tout d'un coup, j'exagère, à travers bien des épisodes et des avatars, à travers des poètes qui sont là, certains d'entre eux, en tout cas la génération la plus âgée, peuvent pouvoir en témoigner. Vous en aurez un témoignage tout à l'heure. Après la guerre de Corée, il y a eu toutes sortes d'épisodes politiques terribles en Corée du Sud, en particulier une dictature militaire extrêmement dure, des régimes très autoritaires. Ça n'est que assez tardivement, même très tardivement finalement, que ce qu'on peut appeler un régime démocratique s'est pleinement instauré. Et tout cela n'étant pas non plus sans contradiction, aujourd'hui même, sans lutte, sans déchirement. Tout cela, nos poètes en participent d'une manière ou d'une autre, on pourrait le montrer. Ce qui est fascinant aussi, pour reprendre des propos de Martin, c'est que les écrivains coréens, les artistes coréens, les cinéastes coréens du Sud, sont, je dirais pas qu'ils sont animés d'eux, ils se trouvent que ils ont quelque chose à dire au reste du monde. Ça sort de la Corée d'une façon tout à fait spécifique. Ça ne ressemble à rien d'autre dans ce que je connais dans le monde. Vous voyez le cinéma coréen, par exemple. Hein, je vais le mentionner, puisque c'est assez connu. On en reparlait entre nous, avec les amis coréens. Là. Le film de Lee Chang-dong, Poetry. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film merveilleux. Poetry, tout de même, c'est frappant. Un film qui s'intitule Poetry. Et en plus, c'est le distributeur français qui a voulu ce titre, parce qu'en fait, c'est poésie, tout simplement. Hein. Mais le distributeur français avait peur de mettre le titre poésie en français. Ça ne fait pas assez chic. Alors, mais Poetry, comme si c'était une espèce de... C'est incroyable. Je me suis engueulé avec eux au téléphone. Bon, ça, c'est mais bon, c'est un film qui, en effet, la poésie joue un rôle tout à fait spécifique. Yunjin et moi avons traduit la partie des sous-titres pour la sortie en France, la partie des sous-titres qui est proprement poétique, justement. On a fait aussi un entretien avec ce réalisateur. Bon, tous les films de Lee Chang-dong sont magnifiques. C'est un cinéaste profondément, très profondément poétique, ami de Wang Jiu, qui est quelque part, je ne vois rien du tout, mais Wang Jiu qui va lire tout à l'heure. Enfin voilà, donc vous voyez, il y a un monde là, et nos poètes sont de cette même capacité à sortir vers le monde. La Corée sort vers le monde. Ça n'est pas sans contradiction, parce que c'est aussi la sortie de la Corée. Vous savez, il y a toutes sortes de registres. C'est aussi en matière économique, en matière technique. La Corée du Sud est en pointe sur un certain nombre dans des domaines techniques. J'ai découvert récemment, on en parlait aussi, qu'à Paris, des jeunes chanteurs pop ont un grand succès désormais auprès des très jeunes Français qui apprennent le coréen rien que pour chanter les chansons de ces groupes de coréen pop, K-pop. Voilà. Enfin, voilà. Alors, je dis ça n'est pas sans contradiction, il y a des choses qui, en effet, sont conflictuelles. Car il y a quelque chose de profondément conflictuel dans la Corée, c'est aussi ça qui rend ce pays passionnant. Voilà. Alors, je n'en dis pas plus sur tous ces sujets. L'aspect historique, je signale qu'à la fin du numéro, on a mis une chronologie brève pour qu'on puisse se repérer, pour tout le monde ne connaît pas l'histoire de la Corée par cœur. Et puis, il y a dans le numéro étant composé de deux parties. Une anthologie de poèmes composé, dont le choix des poètes a été fait par le professeur Zhang qui est ici, Zhang Kuari de son nom de critique, puisque c'est, je crois, vraiment la critique centrale en matière de poésie en Corée. C'est lui qui a bien voulu faire le choix des poètes, donc composer, et davantage que faire le choix des poètes, composer des sections qui donnent une valeur historique, une signification historique à la composition de cette anthologie. Il a, en plus, fait une introduction tout à fait remarquable, qui fait comprendre l'intrication de la poésie avec l'histoire de la Corée, avec l'histoire des luttes de libération sur de divers ordres politiques, mais aussi dans l'ordre des mœurs, dans l'ordre de la vie sociale, dans l'ordre de la vie des rapports, par exemple, entre les sexes. La poésie écrite par des femmes en Corée du Sud est quelque chose de capital. Et nous avons ici Kim Il-sung, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, quand on entendra. Donc voilà, la deuxième partie du numéro, un peu moins développée, mais c'est un numéro énorme, 304 pages, et très dense dans la typographie, mais très clair, je crois. La deuxième partie du numéro est composée d'essais sans systématicité, assez divers, et cette deuxième partie est introduite par un article de Yunjin, de mademoiselle Zhu Yunjin, qui a travaillé avec moi sur tout ce numéro depuis, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Combien ? 3 ans au moins, mais avant on en parlait déjà, moi je me souviens que c'est à Séoul, on en a parlé bien avant. Et donc on a vraiment, je crois qu'on peut dire qu'on a énormément travaillé. Elle a fait donc une introduction, un article qui introduit la deuxième partie. Là aussi, la dimension historique est très, très fouillée, je trouve ça très passionnant. Voilà ce que je peux dire de global. Je dirais encore que, au fond, pour reprendre un propos qu'a tenu un membre de notre comité qui a lu tout le numéro avant la publication, c'était Gisèle Berkman, qui disait qu'elle avait l'impression, en lisant ces poètes si divers qu'ils soient, et ils sont très divers, que les poètes coréens s'avançaient dans des zones, des aventures psychiques incroyablement audacieuses. Et cette audace, qui peut paraître individuelle, une sorte de parcours, d'avancée toute subjective, en fait, à tout moment s'imbrique avec les luttes de libération historico-politique. C'est ça qui fait aussi une des grandes spécificités de ces poèmes, encore une fois, si différents qu'ils soient les uns les autres. Il m'est arrivé d'employer l'expression, je crois que je l'ai mis quelque part dans le numéro, j'avais l'impression, dans tout cet ensemble incroyable de poèmes, d'un magma imaginatif à vif. Quelque chose qui brûle véritablement, quelque chose de métamorphique, quelque chose qui est constamment en train de se mouvoir. Je reviendrai à un moment ou à un autre au thème de la métamorphose dedans. Oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Mais avant de donner la parole à Zhang Kuari, qui va vous parler maintenant, je voudrais, comme je l'ai fait l'autre jour, j'y tiens, lire un petit bout de poème du plus âgé des poètes qui sont dans ce numéro, qui est en tête du numéro, quelqu'un qui est toujours vivant, qui a connu la guerre de Corée, qui a connu la Corée sous l'emprise japonaise avant la guerre de Corée. Je vous lis quelques vers de Park Inui, hein, grand poète coréen, philosophe aussi. Il est donc dans notre numéro. Quelques vers simplement pour introduire, enfin, scander l'aspect historique. Une balle tirée par son semblable rouille dans la poitrine du soldat. Sur la colline où tous sont morts, tombe une neige fondue. Et un peu plus loin, ces vers saisissants, la cicatrice souillée de sang vise un ciel sombre, ouvert comme une gueule. Voilà, cette blessure-là, elle est vraiment aussi l'histoire de la Corée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà.
Veuillez bien, mesdames et messieurs, de vous permettre de lire le papier que j'ai préparé d'avance. Merci pour cet accueil chaleureux qui nous attendrit. Tout d'abord, je voudrais remercier professeur M. Martin Ruiz et professeur Mme Sylviane Dupuis qui ont organisé la lecture de la poésie coréenne et toutes les personnes qui ont collaboré avec eux pour cet événement d'aujourd'hui. Et aussi, je suis très reconnaissant à tout le monde qui se trouve dans cette salle qui a, je m'en doute, la grande curiosité sur la littérature et la culture de la Corée. L'Université de Genève me rappelle l'école de Genève, c'est-à-dire les critiques qui travaillaient autour de l'Université de Genève. Marcel Raymond, qui a publié de Baudelaire au surréalisme. Albert Béguin, de l'âme romantique et le rêve. Jean-Pierre Richard, de Poésie et profondeur. Georges Boulet, des études du pas humain. Jean Stravinsky, de l'œil vivant. Et Jean Roussy, de la littérature de l'âge baroque en France. Ces critiques ont influencé largement sur des étudiants coréens, y compris moi, de la seconde moitié du XXe siècle. Les attitudes littéraires de ces critiques et leur sensibilité, je pense, se correspondent bien aux Coréens de cette époque. Et afin que nous, les Coréens, aient découvert ce fait surprenant, il fallait non seulement les traductions de ces livres mentionnés tout à l'heure, mais aussi une recherche sur l'école de Genève d'un critique coréen, professeur Kim Hyun. Défend Kim Hyun était grand critique qui a établi un prototype de la critique littéraire coréenne et grand maître qui a enseigné poète Hwang Ji-ho et moi à l'université et qui a fait débuter poète Kim Hye-sun au monde des lettres et aussi a exercé une grande influence durable sur des générations suivantes. Son étude de l'école de Genève commence par un chapitre intitulé « Sur le complexe du vol de Marcel Raymond » et finit par un chapitre intitulé « Sur la conversion du sens du baroque ». Qu'est-ce que c'est ce charme de l'école de Genève? Tu me poses souvent cette question et je réponds à moi-même. C'est la sympathie pour les autres. En effet, les écrits des critiques de l'école de Genève sont pleins de sensibilité subtile, des écoutes attentives, des remuements et des bruissements des êtres et des choses. Je pense que les Coréens ont des attitudes et des sensibilités similaires. Ils sont très âmes qui sont émues facilement. La poésie de Hwang Ji-ho se fait remarquer par l'imagination politique, mais aussi par l'induction forte magnétisée à travers des événements concrets. Sa passion est celle vers et à la fois entre les êtres. D'autre part, la poésie de Kim Hye-sun montre la fusion et la confusion des images comme divers moments de la transformation de la réalité. et d'entrer dans la nouvelle vie. Surtout, son imagination s'enracine sur la corporalité féminine et ouvre un monde imaginaire très singulier qui absorbe toutes les anciennes vies et accouche des nouvelles vies à la façon continue. Kwakyuan et Kangjong forment la génération suivante. Leur poésie se varie sur la démocratisation de la politique de la Corée et l'avènement de la société de consommation. Kwakyuan fait se rappeler l'ancienne problématique sur la solidarité des hommes du peuple et leur partage des douleurs que la richesse économique d'aujourd'hui dissimule et fait oublier. Kangjong amène les images comme la déformation de la réalité, non pas formation, comme Gaston Bachelard indiquait précisément. Cette déformation de la réalité à l'extrême en accompagnant la doute fondamentale sur son identité individuelle et sa déconstruction pour la confluence des êtres et des choses. Est-ce que j'ai suffisamment parlé de la poésie contemporaine de la Corée ou au moins des univers poétiques de ces quatre poètes? Les poèmes excèdent toujours le commentaire du critique. Et alors, écoutez des voix vivantes immédiatement et en personne ici maintenant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur. Je vais le noter, après ça, moi, je vais le faire ici. C'est trop bien. Alors, on va commencer à l'écriture. Il faut qu'on se déplace maintenant. Donc, il faut que. Vous voulez bien venir ? Et Wang Jiu, il est derrière la caméra. Comment on fait ?
Il faut qu'il vienne.
Et lui aussi, tu vois. Marc, tu peux
m'asseoir
ici.
Tu veux
m'asseoir, c'est un côté de...
Bien sûr.
Ah, j'encourais à parler de quatre poètes qui sont ici de façon remarquable. Je vais ajouter simplement un mot en ce qui concerne Wang Jiu, dont j'ai pu constater en Corée même à quel point il est connu du public coréen, en particulier, pas seulement, mais en particulier pour son implication dans des événements politiques très violents. Je le mentionne parce que ça va se retrouver dans ce qu'on va lire. En particulier en 1980, événement très violent, massacre d'étudiants dans la ville de Gwangju. Et Wang Jiu parle parce qu'il a été à ce moment-là emprisonné, torturé même. Et donc ça figure dans un certain nombre de textes que nous disons. Je signale qu'il y a un très beau livre, très beau recueil chez William Blake et compagnie de Wang Jiu, traduit par Kim Bona. C'est un, non seulement traduit, mais accompagné dans le sens où tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec présentation, toutes sortes de données qui sont passionnantes. C'est un, il y a des poèmes admirables dans ce recueil. Donc vraiment, c'est un grand livre. Voilà. Alors, on y va. Hein, c'est moi qui lis. Avec
Une verre.
Dans quel sens on fait ?
Je vais commencer avec Wang Jiu, et ensuite tu lis avec
toi d'abord, c'est lui qui...
Non, c'est Wang Jiu qui lit d'abord.
Mais d'abord. Avant de réciter son poème, il aimerait bien dire quelques mots pour le public qui se trouve aujourd'hui.
예, 반갑습니다. 황지우입니다.
Enchanté, je m'appelle Wang Jiu.
아까 도착해서 점심 먹는데 점심 먹으면서 루꾸르
루꾸르 루꾸리에
루꾸리에
Aujourd'hui, après être arrivé à Genève, j'ai vu le courrier, le journal régional.
Oui. 거기 헤드라인에 한국의 시, 한국의 시 맞죠? 시가 시의 대륙, 시의 대륙 한국. 예. 로 돼 있는 거 보고. 아, 이 주네부 사람들이 참 이 감각이 있구나.
그래서 뭐 quand j'ai vu le titre de l'article sur la poésie coréenne, Corée, continent poétique, j'ai pensé que les habitants de Genève sont très sensibles à la poésie.
뭐 여러분 잘 알다시피 한국은 아주 작은 나라입니다.
Comme vous savez, la Corée c'est un tout petit pays.
중국 대륙에 비하면 한 20분의 1 정도 되나요?
Par rapport à celle-ci, on compare au continent chinois. La Corée, je pense que c'est 1/20 du continent chinois.
그 작은 반도도 부족해서 절반으로 지금 나뉘어져 있습니다. 이 지구 위에 이란 분단 국가로 남아 있습니다.
La péninsule coréenne est déjà tellement petite, mais en plus on est divisé en deux.
뭐 이게 우리 이 한국의 이 슬픈 근대의 그 모습인데요.
Ça c'est le portrait de la modernité coréenne en tristesse.
저희 근대 100년은 어떤 의미에서 유럽에 사시는 여러분들이 근대를 포지티브 필름으로 찍고 있었다면 한국은 그 저 여러분의 대척지에서 네거티브 필름의 근대를 겪었다라고 할 수 있겠습니다.
Je peux dire que la modernité coréenne de 100 ans pourrait être comparable au film négatif, mais je dirais plutôt votre modernité européenne serait comparable au film positif.
네, 저희 20세기는 한 절반 정도는 식민지 경험을 했고요. 그다음에는 또 한국 전쟁을 통해서 동족이 서로를 죽이는.
Parce que nous avons connu l'occupation japonaise dans la première moitié du XXe siècle, et après on a connu la guerre coréenne. Là, on s'est entretué le peuple.
말하자면 비극의 세계성이라고 그럴까? 혹은 세계의 비극성이랄까? 그런 시간을 저희들은 살아냈던 겁니다.
Tout ce temps-là, je peux dire que peut-être je peux dire que le monde de la tragédie ou bien la tragédie du monde.
아마 이게 우리 매우 민감하신 무샤르 클로드 무샤르 선생님의 그 감강판에 이렇게 프린트가 돼가지고 이 포에지라는 이 전문 시 잡지에 이번에 한국 시들이 실린 것 같습니다.
Je pense que c'est peut-être ce portrait coréen. Tragique, réel, peut-être a dû marquer dans le cœur de Claude Mouchard. C'est grâce à peut-être cette imprime, on peut dire.
Impression.
Oui, impression. C'est le numéro spécial Poésie Corée est né.
하여튼 저희가 비극을 겪은 만큼 시로서는 매우 축복받은 나라였지 않느냐 이런.
Comme on a connu des tragédies marquées, peut-être on a eu des sujets abondants en poésie.
지금 전 세계적으로 시가 소설에 비해서 그 사멸하는 뭐 동물과 비슷한 지금 처지에 있는데 반면에 한국에서는 아직도 시가 많이 익히고 사랑받고 그리고 정말 좋은 시인들이 많이 창작을 하고 있습니다.
Mais vous savez, c'est en Corée, c'est la poésie n'est pas encore morte parce qu'il y a beaucoup de poètes qui sont importants dans notre temps. Mais pourtant, dans le monde entier, j'ai entendu dire que la poésie est en train de s'anéantir. Oh, peut-être.
네, 이번에는 저희가 네 명이 지금 와서 한국 시를 읽습니다만 저희 뒤에 정말로 좋은 시인들이 많이 있습니다. 그래서 앞으로 이 포에지를 통해서 최초로 유럽 내부에서 한국 문학으로 들어가는 문이 열렸는데요. 정말 휘황찬란한 한국의 시라고 하는 꽃밭을 여러분들이 기다리고 지켜봐 주었으면 좋겠습니다.
Aujourd'hui, nos quatre poètes sont là pour lire nos poèmes, mais derrière nous, il y a encore beaucoup de poètes coréens. Donc, j'aimerais bien vous dire qu'on continue à s'intéresser à la poésie même et à la poésie coréenne. Je vous remercie.
Yeah, 지금 읽게 될 파리 때라는 시는 1980년 5월 30일 광주 시민 항쟁이 계엄군에서 무자비하게 진압된 바로 그 직후에 개인적으로 제가 이렇게 체포돼서 들어가가지고 한 달간 매일같이 고문을 받았었습니다. 그때 겪었던 어떤 그 하루의 그 모습을 일종의 뭐 narrative poetry라고 할까요? 뭐 그런 식으로 썼던 것입니다.
Le poème qui se trouve sur la page 67, Nuée de mouche. J'ai écrit ce poème le 30 mai 1980. C'était juste après la révolution de Gangju. Mais là, j'ai été prisonnier. On m'a mis en prison et j'ai été torturé pendant un mois. Donc, ce poème évoque ma journée en prison.
Paris, c'est. Paris n'est pas la vie. Paris n'est pas la vie. Paris n'est pas la vie. 더 먹는다. 벽에, 천정에, 바닥에, 사람의 입술에, 사람의 똥에, 사람의 밥에 달라붙어서 침 뱉고 욕하고 살살 빌고 뒤로 돌아서 다시 침 뱉고 욕하고 오줌 똥 찍 갈려놓고 휙 날아가 버린다. 나는 것보다 더 빨리 와서 도로 붙는다. 벽에, 천정에, 바닥에, 입술에, 똥에, 밥에. 그리고 고등학교 국어 교사인 정 선생은 그의 아내와 어린 것들 생각 때문인지 가끔 벽적으로 돌아 누워 몰래 우는 것 같다. 오늘도 그는 가족들이 넣어준 돼지 불고기를 먹다가 갑자기 울음을 터뜨린 통에 함께 식사하던 신 교수와 최 교수는 잠시 젓가락을 놓아야 했다. 그의 울음이 나는 비위에 거슬렸다. 너무 슬프면 화가 난다. 나는 그만하시고 빨리 드세요. 묵뚝뚝하게 말했다. 그는 굵은 눈물을 손등으로 문지르면서 죄송합니다, 죄송합니다, 드세요 하면서 오늘 낮 가족들이 넣어준 돼지 불고기를 다시 먹기 시작한다. 오늘 그가 나갔다가 들어왔을 때는 왼쪽 귀가 벌겋게 되어 있었다. 매일 아침 우린 따로따로 불려나갔다가 늦게 들어왔다. 그것을 신 교수는 아침에 세리머니라고 불렀다. 그는 하델베르크 박사다. 목숨 걸고 박사 따온 그에게는 상황 자체가
못 오길 수 있으리라. 어제 그는 그의 세리머니를 마치고 돌아온 뒤부터 일체 말이 없다. 자정이 넘도록 그는 눈 한 번 깜빡이지 않고 어두운 벽만 응시하고 있다. 언제나 그가 도맡아시피 한 마루 청소도 하지 않았고 그의 일과의 대부분을 차지했던 더닐 바이크 소재도 하지 않는다. 그는 어떤 깊은 수치심에 빠져 있는 것 같았다. 그렇지 않으면 분노와 반성의 느린 신진대사를 하는 중일까? 돌아온 것을 후회하고 있는 것일까? 오늘도 그는 면벽에 들어가 있다. 내가 돌아와 자리에 쓰러지면 그는 맨 먼저 달려와 옷을 벗기고 마치 상처받은 짐승을 다루듯 조심스럽게 나를 다루어주곤 했다. 확실히 그 얘기는 인간적인 의무에 대한 그의 완전한 동정심이 그의 서구적으로 세련된 코스튬 위에 놓일 때의 그 두드러진 장점이 있었다. 최 교수가 누워있는 나에게 1번 격언에 젖은 자는 비를 두려워하지 않는다는 말이 있어요 했을 때도 그는 왜 비에 젖어야 합니까? 우산이 있는데 하고 꼭 어린애같이 항변한 적도 있다. 그에게는 부인할 수 없는 행복한 이상주의가 아직도 남아있다. 한 번도 젖어본 적이 없는 40대다. 저 교수는 스스로도 부끄러운 세대라고 말하는 50대다. 6.25 당시 전쟁을 피해 부산서 부둔도둑 노동을 하면서 공부한 도덕보다 목숨이 앞섰던 사활적인 상황을 무사히 통과한 스스로도 부끄러운 세대라고 말하는 그에게는 그래서 어딘가 입지전적인 데가 있다. 그의 상황은 윤리적으로가 아니라 현실적으로 구성되어 있었다. 분단 상황과 역사인식, 창조와 비판사, 서울 1976년 을 저술한 그는 어떤 의미에서는 사학자가 아니다. 그는 역사가. 네 사람이 누우면 꽉 차는 마룻바닥에 이렇게 퍼져 있으면 흡사 끝없이 어디론가 떠내려가고 있는 뗏목에 누워있는 것 같다. 이 뗏목은 지금 어디로 흘러가고 있을까요? 어디로 흘러가고 있을까요, 선생님? 최 교수는 읽던 책에서 얼굴을 들어올리고 한참 동안 천장을 본 다음 다시 책 속의 얼굴을 묻는다. 글쎄요, 제자리가 아닙니까? 지금 그는 나에게 빌린 박병리 토지 지식산업사 서울 1980년 제2부 간도편을 읽고 있다. 어때요? 대화재 후 서인은 목재 장사로 다시 돈을 급지어 홍인에는 갈수록 악만 바락바락 쓰고요. 월선이는 갈수록 꽃 피지어 길상이가 혼자서 흥룡강 강가를 바람 맞으며 걷는 모습 보여요. 송장안의 역사의식에 대해 한 말씀. 지리산과 간도는 어떻게 이어지나요? 이부산은 언제 벌써 연해주로 갔나요? 일본 간 그의 아들 이상현은 어떻게 지냅니까? 안부하세요. 봉순이는 기생되고요. 유생 김훈장은 이제 늙고 초라해지고요. 용해는 벌목하러 산에 들어가고요. 장승백이 삼거리에는 봉천동 방면에 신림동 방면을 화살표로 갈라놓은 이정표가 걸려있다. 그 봉천을 볼 때마다 나는 가슴이 설레었다. 아, 나는 몇 번이고 마음의 두만강을 건너간다. 그 푸른 물, 그 모래바람, 그 갈대밭을 마음으로만 건너간다. 도대체 어떤 자들이 고향을 버리고 처자식 노부모를 버리고 제 목숨까지 버리고 그 기약 없는 길로 떠났을까? 이름 없이 얼음 속에 육신을 묻은 그들은 대체 어떻게 생겨먹은 사람들일까? 어디선가 플라타너스 잎이 한 차례 요란하게 흔들리는 소리가 들려왔다. 나의 발자국이 묻지 않은 지상은 어느새 여름으로 옮겨가고 있다. 지층에 끼인 새우 화석같이 잔뜩 등 구부린 정선생은 이제 세상 모르게 자고 있다. 훅훅 찌는 낮에는 극성스럽게 달라붙던 파리들도 30초짜리 전구에 천정에 벽에 바닥에 붙어있다. 곤충에게도 잠이 있을까? 나는 담뱃불을 벽에 붙은 파리 한 마리에 가까이 되어 갔다. 내 손끝이 닿기도 전에 파리는 꼭 돌벽에 빗맞은 총알처럼 피웅 휘어날아가버렸다. 그 파리는 나비가 아니에요, 기며 갑자기 신교수가 깔깔대며 웃었다. 그때야 나는 그가 뚫어져라 바라보고 있던 그 벽에 파리가 붙어 있었던 사실을 깨달았다. 그러나 나는 그것으로 그의 무건이 깨진 사실에 더 놀라워 그를 보고 최교수 쪽을 한번 보았다. 손과 날개는 상사기관이 아닌가요? 최교수가 반문했다. 맥시.
Nuée de mouches. La mouche n'est pas un papillon. La mouche vient se coller plus vite qu'elle ne vole, se colle pour survivre au mur, au plafond, au sol, aux lèvres de l'homme, à l'excrément de l'homme, à la nourriture de l'homme. En se collant, elle crache, elle insulte, elle s'excuse bassement. Dans le dos, elle crache de nouveau, insulte. Lâche, urine et fiente, puis soudain s'envole. Elle revient plus vite qu'elle ne vole se coller au mur, au plafond, au sol, aux lèvres, à l'excrément, à la nourriture. Lorsque M. Zhang, professeur de lycée, pense à ses petits et à sa femme, il se tourne parfois contre le mur et il me semble qu'il pleure tout seul. Aujourd'hui encore, tout en mangeant du porc grillé que sa famille lui a apporté, il fond brusquement en larmes. Alors, le professeur Chin et le professeur Choi, qui mangeaient ensemble, doivent s'interrompre un instant. Ses sanglots me tapent sur les nerfs. Je me mets en colère quand la tristesse se fait trop forte. Je lui dis d'un ton bourru, « Arrête de pleurer et mange !» Essuyant du dos de la main ses larmes qui roulent, Excusez-moi, je vous prie. » Il recommence à manger le porc grillé que sa famille lui a apporté cet après-midi. Tout à l'heure, en revenant d'une brève sortie, il avait l'oreille gauche toute rouge. Tous les matins, nous étions convoqués l'un après l'autre, et puis nous revenions tard. C'est ce que le professeur Chin appelait la cérémonie du matin. Il est diplômé de l'université de Heidelberg. Pour lui qui s'est consacré entièrement aux études pour obtenir son diplôme, cette situation même devait constituer une insulte. Depuis son retour de la cérémonie d'hier, il ne parle plus du tout. Jusqu'à minuit passé, il a gardé les yeux fixés sur le mur obscur sans les cligner même une fois. Chaque jour jusqu'ici, il balayait le parquet, mais voici qu'il ne le fait plus. Et il ne nettoie pas davantage sa pipe. C'est pourtant ce qui occupait la plus grande partie de ses journées. Il me semble qu'il éprouve une honte profonde. Autrement, serait-il en proie au lent métabolisme de la colère et de l'autocritique? Regrette-t-il d'être revenu? Il reste, sans discontinuer, assis face au mur. Chaque fois que je revenais et m'affaissais, il s'approchait de moi avant les autres et m'enlevait mon uniforme. Puis il me traitait avec précaution, comme il aurait traité une bête blessée. ce qu'il avait de remarquable lui venait de la combinaison d'une parfaite compassion pour l'humanité, à laquelle il se tenait quasiment comme un devoir, et de ses mœurs raffinées, occidentalisées. Au moment où le professeur Choi m'a cité, à moi qui étais allongé, un proverbe japonais, « Celui qui est mouillé n'a pas peur de la pluie », le professeur Shin l'a contredit comme un enfant. Pourquoi devrait-on être mouillé par la pluie ? Il y a pourtant des parapluies. C'est qu'il gardait encore quelque chose d'un idéalisme heureux. Cet homme d'une quarantaine d'années n'avait jamais été mouillé. Le professeur Choi est un homme d'une cinquantaine d'années. Il appartient à la génération de la honte, comme il le dit lui-même. Fuyant la guerre de Corée, il s'était installé à Busan. Il y avait continué ses études en travaillant au port. Il avait ainsi traversé sans encombre des circonstances où il y allait de la vie et de la mort, et dans lesquelles, donc, la vie était passée avant la morale. Aussi se range-t-il lui-même dans la génération de la honte. Et c'est pourquoi il a l'air prêt à prendre lui-même en main sa destinée. Sa position est déterminée d'une manière non pas morale, mais réaliste. Auteur de « Situation d'un pays divisé et sens de l'histoire », édition « Créations et critiques » Séoul 1976, il n'est pas un érudit en histoire, il est un historien. Lorsque je m'étale sur le parquet où se serrent, allongées, quatre personnes, j'ai l'impression d'être étendu sur un radeau qui se trouve emporté on ne sait où, sans fin. Monsieur, ce radeau, vers où se dirige-t-il maintenant ? Le professeur Choi lève la tête de son livre et regarde le plafond un bon moment, puis il se remet à lire. On n'en sait rien. Se pourrait-il qu'il reste toujours au même endroit ? Il est en train de lire le tome 2 de « La Terre », édition Industrie et Littérature, Séoul, 1980. Un de ses romans fleuves de Park Chung-hee que je lui ai prêté. Après un grand incendie, Madame Seo-hye amasse de nouveau de l'argent grâce au commerce du bois. Madame Hong se livre de plus en plus à des actions violentes, tandis que Wolfson s'épanouit. Je vois Kixang se promener seul au bord de la rivière Helang en plein vent. Dites-moi un peu plus sur la perception de l'histoire de Song Shan-hwan. Comment la montagne Jiri et la terre Gando arrivent-elles à se rejoindre ? Monsieur Lee est-il déjà parti pour le prix Morier en Russie ? Comment va son fils Lee Sang-yong, qui est parti au Japon ? Dites-lui bonjour de ma part. Wong Sun est devenu courtisane et le maître confucianiste Kim n'est plus qu'un vieillard pitoyable. Yang-yi est parti dans la montagne pour y abattre des arbres. Au carrefour du mât totémique, il y a un panneau sur lequel Wong Chun et Zilim sont indiqués par des flèches. Chaque fois que je voyais cette indication, Wong Chun, mon cœur battait. Ah, moi, c'est dans mon cœur qu'à plusieurs reprises, j'aurais traversé le fleuve Douman. L'eau bleue, le vent de sable, le marais plein de roseaux, je les traverse seulement dans mon cœur. Mais qui étaient-ils donc, ces gens qui avaient pu partir au loin sans espoir de retour, en abandonnant pays natal, enfants, femmes, vieux parents et même la vie? Oui, ceux qui furent ensevelis, inconnus, en une terre gelée, qui étaient-ils? Voici que j'entends des feuilles de platane trembler fort quelque part. Le monde où manque l'empreinte de mes pas déjà s'est déplacé à mon insu durant l'été. Le dos courbé comme une crevette fossilisée dans une strate de fer, M. Zhang dort en ce moment d'un sommeil de plomb. Même les mouches qui s'acharnaient sur nous dans la chaleur étouffante de la journée restent collées à l'ampoule de 30 watts, au plafond, au mur, au sol. Un insecte fait-il lui aussi la sieste ? J'approche doucement une cigarette allumée d'une mouche sur le mur. Mais avant que je ne la touche, elle s'envole soudain comme une balle rebondie contre un mur en pierre. « Hey King, la mouche n'est pas un papillon !» fit le professeur Chin en riant aux éclats. On m'aperçoit alors que la mouche était collée au mur et regardait fixement. Je m'étonne qu'il ait enfin rompu le silence. Je le regarde et puis je jette un regard sur le professeur Chung qui rétorque « Les mains et les ailes ne sont-elles pas des organes similaires ?» Eh bien, Kimessun, maintenant. Kimessun a une écriture poétique, je dirais, d'une liberté mordante, d'un pouvoir de libération insolente. Et on a parlé tout à l'heure, Tsongkhari, qui n'est plus là, qui n'est plus, j'ai oublié, Tsongkhari a parlé, on a pu dire magnifique tout à l'heure, dans une association que je trouvais merveilleuse avec l'école de Genève et certaines réflexions sur la poésie coréenne. Il a parlé de transformation, je ne sais plus si tu as employé le terme de métamorphose, mais il y a, en effet, me semble-t-il, chez certains poètes coréens d'aujourd'hui, une poétique de la métamorphose. C'est un aspect qu'on ne saurait vraiment trop souligner, c'est quelque chose de capital. La métamorphose, c'est aussi, je pense que c'est le cas chez Kim Il-sung, la transformation des formes, la transformation des corps, la transformation des identités, alors même que les cadres qui seraient supposés les fixer sont eux-mêmes en voie de dissolution ou de d'ébranlement radical. Et donc, vraiment, je pense que la poésie de Kim Il-sung ici joue un rôle à une puissance tout à fait essentielle. Son œuvre, alors, il n'y a pas pour l'instant de recueil de Kim Il-sung en français, à ma connaissance. Il y en a plusieurs en anglais. Et Yunjin et moi allons continuer notre traduction de Kim Il-sung et traduire un recueil en français dans les mois qui viennent. Voilà. On y va. Merci.
한 잔의 붉은 거울 네 꿈을 꾸고 나면 오한이 난다 열이 오른다 창들은 불을 다 끄고 아무도 움직이지 않는 밤거리 간판들만 불켠 글씨들 반짝이지만 네 안엔 나 깃들일 곳 어디에도 없구나 아직도 여기는 너라는 이름의 거울 속인가 보다 발걸음이 떼어지지 않는다 고독이란 것이 알고 보니 거울이구나 비추다가 내쫓는 붉은 것이로구나 포도주로구나 몸방 멀리서 두통이 두근거리며 오고 여름밤에 오한이 난다 열이 오른다 이 길에선 따뜻한 내면의 냄새조차 나지 않는다 이 거울 속 추위를 다 견디려면 나 얼마나 더 뜨거워져야 할까 저기 저 비명의 끝에 매달린 번개 저 번개는 네 머릿속에 있어 밖으로 나가지도 못한다 네 속에는 너밖에 없구나 아무도 없구나 늘 그랬듯이 너는 그렇게도 많은 나를 다 뱉어내었구나 그러나 나는 네 속에서만 나를 본다 온몸을 떠는 나를 내가 본다 어디선가 관자놀이를 치는 망치 소리 밤거리를 쩌렁쩌렁 울리는 고독의 총소리. 이제 나는 더 이상 숨쉴 곳조차 없구나. 나는 붉은 잔을 응시한다. 고요한 표면. 나는 그 붉은 거울을 들어 마신다. 몸속에서 붉게 흐르는 거울들이 소리친다. 너는 주점을 나와 비틀비틀 저 멀리로 사라지지만 그 먼 곳이 내게는 가장 가까운 곳. 내 안에는 너로부터 도망갈 곳이 한 곳도 없구나.
Une tasse de miroir rouge. Après avoir rêvé de toi, j'ai le frisson, fièvre qui monte, fenêtres aux lumières éteintes. les rues nocturnes où rien ne bouge. Seules des enseignes scintillent en lettres lumineuses, mais en toi, nul endroit où me loger. Ici, semble être encore dans un miroir qui a nom toi. Je ne peux bouger d'un seul pas. La solitude, c'est bien le miroir, c'est le rouge qui reflète, puis chasse, c'est le vin. De loin, hors du corps, la migraine arrive en palpitant, et dans la nuit d'été, j'ai le frisson, la fièvre monte. Sur ce chemin, même l'odeur de la chaude intériorité ne peut être sentie. Combien devrais-je encore me réchauffer pour résister au froid en ce miroir ? Là-bas, accroché au bout de ce cri, un éclair. C'est un éclair dans ta tête, il ne peut t'en sortir, il n'y a que toi, et en toi, comme d'habitude, il n'y a personne, tous tes nombreux moi, tu les as crachés. Mais je ne me vois qu'en toi, je me vois moi-même, corps tout grelottant, coup de marteau frappé sur une tempe quelque part, coup de fusil de la solitude résonnant dans la rue nocturne. À présent, je n'ai plus le moindre endroit où respirer. Je contemple une tasse rouge, sa surface calme. Je prends ce miroir rouge, puis bois, coulant en rouge dans le corps. Les miroirs crient, tu sors du bistrot, puis tu t'en vas, au loin, titubant, dans le lointain. C'est pour moi le plus proche endroit. Il n'y a pour t'échapper nul endroit en moi.
Soul Cora. Sani Kongkong Chitaga. Sani 나를 따라온다. Sani 새끼를 낳는다. Sani 산을 핥는다. Sani 11마리 새끼에게 젖을 물린다. Sani 매정하게 새끼들을 다 버려버린다. 어린 산들이 백주 대낮에 교미한다. 악취가 난다. 산이 미로 속에 갯대처럼 몰려다닌다. 산이 젖은 눈으로 나를 쳐다본다. 목덜미를 쓰다듬자 몸을 부르르 떤다. 목덜미에 줄이 묶인 산이 끌려간다. 산이 철창 속에 갇힌다. 맞는다. 걷어 채인다. 죽는다. 산이 똥을 먹는다. 시신을 먹는다. 산이 욕창 가득한 산이 눈에 불을 켜고 달겨든다. 산이 비를 맞고 운다. 나무 한 그루 없는 산이 하늘을 향해 고개를 젖히고 목 놓아 운다. 산이 산을 물어뜯고 싸운다. 산이 큰 산이 제 꼬리를 물고 빙빙 돈다. 서울을 한 바퀴 돈다. 몰려다니는 산을 제국의 군대가 박멸한다. 살아남은 산이 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 멀리 멀리 달아난다. 아직도 달아난다. 산이 산을 벗어버리고 싶은 산이 두 손을 모으고 모은 두 손을 산을 향해 뻗치더니 이마에 대고 그 두 손을 가슴으로 끌어내리고 다시 한번 산을 바라보고 팔꿈치를 옆구리에 붙인 다음 오른쪽 무릎을 꿇고 양손을 땅바닥에 대더니 왼쪽 무릎을 마저 꿇고 모은 두 손을 땅바닥에 붙여 멀리 보낸 다음 온몸을 땅에 밀착시킨다. 그리고 운다. 이것을 세 걸음에 한 번씩 계속 반복하면서 산이 산을 돈다.
Séoul, Cora. La montagne aboie, sourdement aboie, et puis la montagne me suit. La montagne fait des petits, la montagne lèche une montagne, la montagne donne le sein aux petits, la montagne les abandonne tous, impitoyablement. De petites montagnes s'accouplent au grand jour et ça pue. Les montagnes se meuvent, telle une meute de chiens dans un labyrinthe. La montagne a les larmes aux yeux à me regarder. Si je lui caresse la nuque, son corps grelotte. Lié d'une corde à la nuque, on l'emmène, la montagne. La montagne est jetée sous les verrous, battue, piétinée, morte. La montagne mange de l'excrément, mange du cadavre. La montagne pleine d'escarres, la montagne aux yeux de flammes se révolte. La montagne, tête enneigée, la montagne pleure. Sans un seul arbre, la montagne renverse la tête vers le ciel et sanglote. La montagne, grande montagne, se mord la queue, tourne en rond, tourne. Les montagnes se meuvent en masse. L'armée de l'Empire les extermine. Une montagne survit. Montagne, montagne, franchissant une montagne, fuit. Toujours elle fuit. Montagne, montagne, qui désire se défaire de la montagne, qui joint les mains, les tend vers une montagne au loin, puis se les pose sur le front, les abaisse sur sa poitrine, regarde de nouveau une montagne au loin, ramène les coudes sur ses flancs, puis plie le genou droit, met les mains à terre, finit par plier le genou gauche, abat ses mains jointes sur le sol pour les pousser au plus loin, et puis colle le corps entier contre le sol et pleure. Réitérant cet acte tous les trois pas, la montagne fait le tour de la montagne.
여자 저만치 산부인과에서 걸어나오는 저 여자 옆에는 늙은 여자가 새아기를 안고 있네 저 여자 두 다리는 마치 가위 같아 눈길을 쓱쓱 자르며 잘도 걸어가네 그러나 뚱뚱한 먹구름처럼 물컹거리는 가윗날 어젯밤 저 여자 두 가윗날을 쳐들고 소리치며 무엇을 오렸을까 비린내 나는 노을이 쏟아져 내리는 두 다리 사이에서 눈 폭풍 다녀간 아침 자꾸만 찢어지는 하늘 뒤뚱뒤뚱 걸어가는 저 여자를 따라가는 눈이 시리도록 밝은 섬과 눈부신 천국의 뚜껑이 열렸다 닫히네 하나님은 얼마나 무서웠을까 하나님이 키운 그 나무 그 열매 다 따먹은 저 여자가 두 다리 사이에서 붉은 몸뚱이 하나씩 잘라내게 되었을 때 아침마다 벌어지는 저 하늘 저 상처 저 구름의 뚱뚱한 붉은 두 다리 사이에서 빨간 머리 하나가 오려지고 있을 때 저 피가 내 안에 사는지 내가 저 피 속에 사는지 저만치 앞서 걸어가는 저 여자 뜨거운 몸으로 서늘한 그림자 찢으며 걸어가는 저 여자. 저 여자의 몸속 눈창고처럼 하얀 거울 속에는 끈적끈적하고 느리게 찰싹거리는 붉은 피의 파도. 물고기를 가득 담은 아침바다처럼 수많은 새아가들 헤엄치네.
Rouge femme ciseau. Au loin, sortant d'une clinique d'accouchement, la femme. À ses côtés, une vieille porte un nouveau-né dans ses bras. Les deux jambes de la femme ont l'air de ciseaux, tandis qu'elle va coupant son chemin dans la neige qui crisse. Mais comme de gros nuages noirs, voici de molles lames de ciseaux. La nuit dernière, la femme, qui levait ses ciseaux en hurlant, qu'a-t-elle découpé ? De rouges lueurs crépusculaires à l'odeur de sang se déversent entre les deux jambes. Matin où a passé une tempête de neige, ciel se déchirant sans trêve. À la poursuite de la femme qui titube, il étincelle, l'éclaire, il aveugle. Le couvercle d'un paradis éblouissant s'ouvre pour sitôt se fermer. Dieu, à quel point fut-il effrayé lorsqu'ayant cueilli et mangé tous les fruits de l'arbre cultivé par Dieu, la femme, entre ses deux jambes, a dû couper un corps rouge après l'autre. Plaie du ciel s'ouvrant chaque matin quand, entre les épaisses jambes rouges de ces nuages, une tête toute rouge est découpée. Ce sang, est-ce lui qui vit en moi ou moi qui vis dans ce sang? Au loin, marchant par devant, la femme qui d'un corps chaud déchire l'ombre froide, la femme, elle marche. Dans le miroir blanc, tel un entrepôt de neige dans le corps de la femme, gluante, en houle lente, des vagues de sang rouge. Comme la mer du matin, abonde en poissons, des nouveau-nés, en abondance, nagent.
On se connaît depuis longtemps, mais ça n'est que relativement récemment que Yonjin et moi avons traduit certains de ses poèmes. C'est un poète, je l'ai dit dans cet entretien qu'il y a dans le journal qu'on a mentionné tout à l'heure, que je trouve secret, mais d'une précision extrême. C'est un peu comme pour moi, comme des gravures, des incisions. Et ce qui est étrange, c'est l'impression d'exactitude que donnent ces poèmes, mais une exactitude paradoxale. C'est-à-dire, on sent une fidélité, mais à quoi on ne le sait. Il y a une sorte d'énigme à chaque fois dans la précision, dans la rigueur. Voilà, on y va.
겨울로 가는 폭우, 계절이 들고 나는 텅 빈 폭우에 바람이 일고 파도 거품 가득한데 낡은 선착장 닷줄 기둥에 걸터앉아 나는 기다림에 올 사람 없고 갈 사람 없는데 뻘겋게 바닥을 드러낸 갯가에 다시 물이 들고 바닷에 드문드문 나는 허허로 멀리 수평선에 걸쳐있는 섬 같고 배 같은 점 하나 홀로 우두커니 서있네 날이 저물자 점점 멀어져 영영 돌아오지 않을 것 같은 배가 되었네. 어느새 성큼 다가와 가슴 속 깊이 움직이지 않는 섬이 되었네. 여윈 겨울 색강에 은빛 노을이 일렁인다.
petit port ouvert sur l'hiver. Dans un petit port désert que côtoient les saisons, assis sur la borne d'amarrage d'un câble d'ancre, dans un vieil embarcadère plein d'écume de vagues et où souffle le vent, j'attends. Pourtant, personne ne vient ni ne s'en va. Sur le rivage dont le fond a découvert est tout rouge, l'eau arrive encore, un oiseau de mer vole parfois dans le vide. S'étendant au loin sur l'horizon, un point, pareil à une île ou un bateau, se tient seul. Quand le jour baisse, il s'éloigne de plus en plus et devient bateau qui semble ne jamais devoir revenir. Inopinément, voici qu'il se rapproche. Il se fait île, immobile au fond du cœur, des lueurs argentées de soleil couchant, flotte sur un bras de fleuve en un maigre hiver.
Je suis quelques années 정부 수립 60주년을 맞아서 식민지 일본의 식민지 시절에 우리나라의 임시 정부가 있었던 그 흔적을 찾아서 중국 상하이에서 충칭까지 수천 킬로미터를 여행한 적이 있습니다.
Avant de lire mon poème qui se trouve sur la page 220, j'aimerais bien vous dire quelques mots. Ce poème, j'ai écrit après un voyage en Chine. En fait, c'est... Oui, mais je vais expliquer un peu plus tard, après avoir tout écouté. Excusez-moi.
Oui, c'est un peu plus tard, après avoir tout écouté. 조국의 독립을 위해서 목숨과 젊음을 바친 사람들의 흔적을 보면서 굉장히 많이 울었던 기억이 있습니다.
Parce que ce poème il a écrit après avoir voyagé en Chine dans une région où c'est le gouvernement provisoire pendant l'occupation japonaise a été. Donc il a pensé à nos ancêtres qui ont vécu une période assez douloureuse. Donc voilà, il va lire ce poème.
예, 그 길에서 무엇보다 저를 사로잡은 것은 언제 죽을지 모르는 그 길에서 또 누군가를 기다리고 또 사랑을 하고 아이를 낳고 또 누군가를 읽어줄 사람들 누군가 읽어줄 사람들을 위해서 편지를 쓰고 일기를 남긴 사람들이었습니다.
Dans ce poème, il ne veut pas évoquer justement seulement la relation entre la Corée et l'histoire douloureuse. C'est il aimerait bien évoquer l'attente et l'amour pendant l'histoire coréenne passée.
저는 그것을 시라고 믿습니다.
Oui, ces attentes, ces amours qu'on a vécu pendant les années passées, il y a longtemps, je trouve que il trouve que ces attentes et l'amour dans la poésie.
Bon,
je vais lire. Il va lire son poème.
앞서간 사람들의 길, 칠흑의 길을 앞서간 이들을 따라 바다를 닮은 호수를 품은 내륙 도시를 지난다. 호반을 둘러싼 아름드리 오동나무, 굳고 비틀리고 휘어진 굵은 가지 마디마디. 먼저 이 길을 간 사람들의 삶이 그랬을지니 더디게 오는 여름 저녁 널 아래서 편지를 쓴다. 누군가 꼭 한번 읽어줄. 엉엉 울며 혹은 눈물을 삼키며 그렇게 걸어간 사람들에 대하여 그 슬픈 그늘에 대하여 상해, 가흥, 무한, 남경, 그리고 중경. 한 발짝도 내다볼 수 없는 농무자욱한 길을 더듬으며 사랑하는 이를 위해 일기를 쓴 사람, 토굴에 웅크려 떨며 누군가를 기다렸던 사람, 다시 그날이 와도 숙명처럼 그 길을 묵묵히 갈 사람들에게 철일은 들국화라도 만나면 물소리, 새소리, 벌레소리, 아이들 제잘거리는 소리를 담아 가만히 들꽃 소식과 함께 바람에 실어 보내리니 고맙다고 고마웠다고 그래서 나 오늘 다시 이 길을 간다고 무심히 여름 벌판을 적시는 강물에게도 길이 있다고 길 넘어 다시 길이 있다고
Le chemin des gens qui m'ont précédé. Poursuivant ceux qui m'ont précédé sur un chemin noir de jais, je parcours une cité côtière, embrassant un lac tel une mer. Un gros polonia qui enclos la bordure du lac, de jointures, de gros rameaux courbés, tordus et ployés, comme les vies de ceux qui ont avant moi pris ce chemin dans une lueur crépusculaire d'été, arrivant doucement, j'écris à qui me lirait au moins une fois. Il s'agit de gens qui ont marché en sanglotant ou en ravalant leurs larmes. Il s'agit du nombre triste, Shanghai, Jiaxing, Wuhan, Nankin et Chongqing. Quelqu'un tient son journal pour l'être aimé, à tâtons, dans un chemin plein d'épais brouillards, où on ne voit pas plus loin que le bout de son pied. Quelqu'un attend. Quelqu'un, tout grelottant, blotti dans une caverne, et c'est aux gens qui prendraient ce chemin-là, alors même que ce jour-là surviendrait de nouveau comme un sort, rencontrant des chrysanthèmes sauvages, c'est à eux qu'en y mettant du bruit d'eau, un chant d'oiseau, des bruits d'insectes et, en secret, des piaillements d'enfants, avec la nouvelle d'une fleur des champs par le vent, je les enverrai. Je les remercie, je les ai remerciés, et je reprends aujourd'hui ce chemin. Il doit se trouver un chemin jusque dans l'eau du fleuve, arrosant par hasard les champs d'été. Il doit s'en trouver un autre encore, par-delà ce chemin-ci.
Saradin 도시, Teotihuacan에서 두 개의 강이 널찍히 가랑이를 벌린 계곡, 철길을 따라 늘어선 오두막집처럼 도로 재단들 나란히 줄지어 있다. 아득한 문명이 증기처럼 사라진 신들의 고원 도시, 태양과 다르 피라미드가 드리운 생명과 죽음을 잇는 길을 걷다. 파리한 회색 혹은 주홍빛의 길, 그림자 없는 신들이 거닐던 죽은 자들의 길 위에서 난 어느 날 흔적 없이 사라진 자들을 찾다, 놀다, 기다리다, 잠들다. 도르 신전을 떠받친 깃털 달린 뱀은 딱딱하게 굳은 날개를 다시 펴고 비으신 틀라복은 밤새 목이 마르다 한다. 기운은 빛이 들고 제단 너머로 마른 바람 불다. 아득한 붉은 빛이다.
Cité disparue. Vallée où deux fleuves écartent largement les jambes, des hôtels en pierre sont rangés comme des cabanes alignées le long du chemin de fer. Cité d'un plateau pour les dieux, d'où une civilisation lointaine s'est évanouie comme une brume, on marche sur le chemin qui relie la vie à la mort, dans l'ombre d'une pyramide de soleil et de lune, chemin gris blême ou écarlate, sur le chemin des morts où se promènent des dieux sans ombre, je cherche ce qui, un jour, disparurent sans trace, je m'amuse, j'attends, je m'endors.
Quand Jean est ici, nous avons commencé à le traduire, Eugene et moi, quand Sanquari nous a proposé de le faire, et moi je ne connaissais pas du tout. Et ça a été vraiment, à mesure que nous traduisions, une révélation. J'ai déjà employé cette comparaison, pardon, moi je me répète, mais j'ai parlé une fois de... Vous savez, la technique du frottage Max Ernst, qui prend une feuille de papier avec un objet dessous, on frotte au crayon, à la mine, et on voit apparaître des formes qui finissent par ressembler à ce que... Eh bien, il y a quelque chose comme ça quand nous avons traduit. On a vu apparaître quelque chose, ce sont des poèmes énigmatiques, extrêmement puissante. Et on retrouverait aussi la poétique de la métamorphose, très différente de celle de Connaissoun, mais il y a tout même quelque chose de comparable. En tout cas, ce sont des poèmes qui, pour moi, sont absolument troublants, vous le verrez. Donc, on y va. On commence par « Temps d'une bête inconnue ». Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Kang Jong, il est rocker aussi. Et il nous a... J'ai dit une bêtise ? J'ai dit une
bêtise ?
Non, pas du tout. Ah non, je vais encore dire un mot. Non, parce que c'est important pour le numéro. On lui a demandé, je suis assez fier qu'on ait fait ça, on lui a demandé un texte sur poésie et musique. Et il a fait une prose incroyable, que nous avons eu beaucoup de mal à traduire. C'est vraiment, nous avions l'impression d'un tangage permanent. C'est une prose vraiment sans comparaison. Voilà. Alors je suis assez content qu'on ait fait ça aussi. Je voulais le dire. On y va.
낯선 짐승의 시간. 냄새로 사물을 식별하는 건 비단 네발 짐승의 장기만이 아니다. 지워진 너의 냄새가 사방 분분한 낙엽의 마지막 숨결에서 배어나온다. 이 친밀도 높은 인분의 기척을 나는 인간에 대한 또 다른 전망으로 읽는다. 인간이 사랑을 멈추지 않는 까닭은 이미 퇴화한 감각에 대한 질긴 향수 때문이다. 기억에서 지워진 사람을 다시 지우려는 욕구 탓인지 휴일엔 동물원이나 유원지 따위가 문전성시다. 몸이 쉬는 날치고 마음이 아프지 않은 적이 내게는 없다. 끝을 모르는 짐승의 고요한 낮잠을 읽으며 음악을 들으면 허공의 박물관 도록처럼 펼쳐지는 이미 멸종한 생물들의 연대기. 이별은 그러니까 내가 고기를 먹는 날이다. 소위 인간보다 저능한 것들의 살을 씹으며 인간이기를 방명하려고 애쓰는 건 내 몸 안에서 죽지 않은 누군가의 심장이 짐짓 예술적으로 교태를 부리며 이 몸 바깥의 어떤 사물을 만지려 하기 때문이다. 고기를 먹고 나서 거울을 보고 거울에 담긴 서글픈 육식동물의 눈알을 탐하며 지구 멸망의 마지막 스위치를 내리듯 숨에 몰두한다. 그 순간 머릿속은 너무도 시적으로 파악해버린 현대 물리학 이론의 집성장이다. 시와 초가 분방하게 경계를 넘으며 한평반 남짓 화장실 공간이 수천만 인마가 살상된 채 까마귀 떼를 후리는 저먼 당송시대쯤의 격전장으로 변한다. 마지막 한 방울까지 토해내면 나는 인간의 정념 바깥으로 나갈 수 있을까? 시공 공률의 첨단을 제 멋대로 해체하려 드는 이 미련한 전념을 측은하게 바라보는 누군가가 있다. 황망해진 마음을 후다닥 감추려 짐짓 다른 표정을 바꿨으며 코를 싱긋거리는 이 몸이 어느덧 벌써 다른 짐승의 육체. 고기 냄새를 풍기고 온 날이면 어김없이 내 손길을 피하는 안방 고양이의 새침한 눈알 속이다. 이제야 알겠다. 살을 부빈 시간이 많을수록 네가 내가 되고 나는 그 어디에도 안 보이는 바람이 되어버리던 까닭을.
Temps d'une bête inconnue. Identifier les choses par l'odeur n'est pas le talent des seuls quadrupèdes. Ton odeur effacée s'échappe un peu partout du dernier souffle des feuilles mortes. Dans la trace de l'excrément humain, dans ce plus haut degré d'intimité, je lis une vision de l'homme. Ce que l'homme ne cesse d'aimer découle de la nostalgie persistante d'un sens dégénéré. Effacer de nouveau la personne qui s'est effacée de la mémoire, tel est sans doute le désir qui fait qu'au jour férié, il y a foule au zoo ou dans les parcs. En chacun des jours où le corps se repose, nul moment où je n'ai mal. Si j'écoute de la musique tout en lisant une calme sieste de bête à l'inconnaissable fin, où les annales des êtres déjà exterminés, déployés dans le vide comme un catalogue de musée illustré, la séparation a lieu le jour où je mange de la viande. En mâchant de la chair d'être que l'on dit plus arriéré que l'homme, j'essaie de me libérer de ma réalité d'être humain. C'est le cœur de quelqu'un pas encore mort dans mon corps. Il tente, en y mettant avec art de la coquetterie, de toucher un objet au dehors de ce corps. Après avoir mangé de la viande en regardant un miroir, guettant les yeux tristes d'un animal carnivore qui se reflète dans le miroir, je m'absorbe dans l'onanisme comme si j'abaissais un dernier interrupteur pour que s'effondre la terre. À cet instant, la tête est toute compilation de théories de physique moderne saisies trop poétiquement. Heures et secondes outrepassent ouvertement la limite. L'espace des toilettes d'un peu plus de 5 mètres, carrés se transforme en champ de bataille d'une époque aussi lointaine que les dynasties Tang et Song, où plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de chevaux ayant été tués, des volées de corbeaux en furent ravis. Si je vomis tout jusqu'à la dernière goutte, pourrais-je sortir de la passion humaine ? Il y a quelqu'un qui observe avec pitié cette obstination absurde à décomposer à son gré le sommet de la courbure de l'espace-temps. Reniflant tout en changeant de visage pour dissimuler hâtivement mon âme perturbée, je rentre en exhalant une odeur de viande, celle du corps d'une bête autre, et en des jours pareils, je ne manque pas de me retrouver dans l'œil froid de la chatte de la chambre qui fuit mon contact. Je comprends enfin pourquoi, plus on passe de temps à se frotter l'un contre l'autre, plus tu deviens moi et plus je deviens moi, le vent qui ne se voit nulle part.
Gâchin-salgyeong. 갈수록 비탈이 심해지는 언덕이 있다. 세 명의 사내가 언덕을 오른다. 우짜처럼 간혹 눈발이 날리고 세 사내의 입은 먹기 위해서만 가끔 여다칠 뿐이다. 얼마나 많은 걸 눈 덮인 저곳에다 남겨두고 왔던가. 한 사내가 문득 멈춰선다. 그가 서 있는 곳은 그러나 눈이 떨어지는 곳에서 보면 작은 흠집에 불과할 것이다. 쉴 수 있냐 누구는가. 그는 아마 신일 것이다. 그를 지운다. 남은 두 명의 사내의 외투자락 속에 눈발이 기어든다. 다시 멀리 보자. 두 마리의 검은 벌레가 백지 위를 미세하게 걷고 있지 않은가. 먼저 지워진 사내의 발자국은 몇 분 전 아니 몇 초 전이나 몇 시간 전에 눈발을 담았다. 그냥 언덕의 한 부분일 뿐 미안하게도 누구에게? 그란 없다. 그에게 죄송하지만 죄송함마저 이 언덕에선 한꺼풀의 눈길이지 않으면 안 된다. 남은 두 사내의 흔적이 잠깐 파였다가 없어진다. 없어짐마저 이 언덕에선 일부분의 존재인가 존재의 일부분인가. 한 사내가 갑자기 머리를 부여잡고 쓰러진다. 흠집일 뿐이야 흠집. 쓰러진 사내가 쓰러지지 않은 사내에게 무어라 최초로 중얼거린다. 조금씩 거세지는 눈발에 잠겨 사내들이 본 모습이 보이지 않는다. 온 풍경이 하얗게 지워지고 누군가. 그는 혹시 신이 아닐지도 모른다. 뚜껑을 닫듯 백지를 접는다. 일생 동안 실패만 거듭하는 삶. 그런 게 언제 있었냐는 양 의기양양하게 잘 차려진 저녁 식탁 앞에서.
Paysage de neige enclos. Il y a une colline dont la pente s'accroît en montant. Trois hommes montent la colline. Pareil à des fautes d'impression, la neige vole par moments et leurs bouches s'ouvrent et ne se referment parfois que pour manger. Que de choses ils ont laissées là-bas sous la neige. L'un d'eux s'arrête soudain. Là où il se tient debout, il ne ferait qu'une petite marque, si on le voyait depuis le lieu d'où tombe la neige. On, il se peut que ce soit Dieu, l'efface, comme s'il s'agissait d'une erreur. De la neige s'introduit dans les manteaux des deux hommes qui restent. Voyons, au loin, de nouveau, tiens, deux vers noirs rampent minutieusement sur une feuille blanche. Les traces de pas de l'homme qui a été effacé le premier se sont emplis de la neige tombée il y a quelques minutes, non, il y a quelques secondes ou quelques heures. Ce n'est rien d'autre qu'une partie de la colline. Désolé. Mais pour qui? Lui, il n'existe plus. S'excuser pour lui, cette excuse même serait comme une couche de neige sur cette colline. La trace des deux autres s'enfonce et se perd aussitôt. La perte même serait-elle, sur cette colline, existence d'une partie ou bien partie d'une existence? L'un d'eux tombe soudain à terre et se prend la tête dans les mains. Ce n'est qu'une marque, rien qu'une marque. Celui qui est tombé murmure pour la première fois vers celui qui n'est pas tombé. Submergé par la neige qui se fait de plus en plus violente, les hommes ne se voient plus réellement. Tout le passage s'efface en blanc et on, il se peut que ce ne soit pas Dieu, plie la feuille blanche comme on reposerait un couvercle. C'est de l'existence qui ne répète que l'échec, une vie durant, comme si de rien n'était. Avec beaucoup d'enthousiasme, devant une table bien dressée pour le dîner.
Guemong에 대하여 저들이 산을 넘보는 것에 대해 나는 아무 말도 하지 않을 것이다. 아무렇게나 부려놓은 짐들을 저들은 개의치 않는다. 호련히 가벼워진 어깨와 그 없는 무게의 끝없는 진공 속에서 거꾸로 자라는 이무기처럼 소리 없이 등짝에 들러붙는 기억. 저들이 보지 못하는 그 엉망인 얼굴들을 나는 뒤돌아볼 줄 모르는 저들의 높디 높은 산봉우리에 올려놓는다. 내가 무언가. 숱한 산들이 피를 토하며 쓰러진 화강암의 길이 되어 저들의 헐떡이는 코끝으로 기어드는 투명한 뱀일 것이다. 세상의 모든 짐이란 짐들은 내 흰 피부의 모공 속에서 온전한 자신들의 시간을 거꾸로 되짚어 커가는 것이다. 저들이 산을 향해 조금씩 늙어갈 무렵 길은 점점 그 반점 같은 구멍들을 넓혀 나간다. 나는 따라가지 않는다. 구멍 속에서 내가 배운 건 사람들이 지난 흔적 뒤에는 언제나 그들의 그림자보다 큰 짐들이 굴러다닌다는 사실이다. 그 버려진 짐들이 자신의 주인들도 모를 엄청난 시간으로 불려지고 거기에 늘 한순간의 정복 같은 죽음이 자란다. 나의 습한 천성이 지휘봉처럼 뻣뻣하게 일어선다면 나는 산의 한가운데 가서 벌겋게 꽂혀주는 저들의 왕이 되었을지도 모른다. 그러나 내가 무한가. 몸을 걸러내는 수단으로 저들은 가장 더러운 형태의 배설을 익혔을 뿐이다. 가장 훌륭한 짐이더라도 몇 개의 아슬아슬한 구멍들을 피해 뛰면서 가장 먼 곳에서 시드는 먼지의 켜가 될 뿐이다. 구멍들 사이의 간격이 좁아진다. 그 사이로 전물처럼 새하얀 물의 시간이 가로지르고 산에 이끌려 지워지는 저들의 뒷길이 깎아지르는 구멍의 단에 미끄러져 내려앉는다. 다 왔구나. 저들은 아직 저들이 없는 등짝을 기어오르는 나를 못 보는가. 길의 끝에 맞닿은 산의 하부에서 휘감아두는 흰 핏물의 육성, 내 껍질을 벗겨 숱한 풀들을 키워낸 이 없는 산을 저들은 아직 머나먼 곳에 우뚝 서선 동물이라고 여기는가. 수천의 구멍과 구멍들이 살을 끊고 만나면서 저들이 내 온몸의 구멍 속으로 추락한다. 그리하여 내가 무언가. 태양도 삼킬 엄청난 주둥이의 자궁을 가진 나는.
À propos d'un trou, du fait que cela épie une montagne, je ne dirai mot. Les fardeaux déchargés n'importe comment, cela s'en fiche. Épaules soudain allégées, souvenirs qui s'embrouillent collent au dos, comme un grand serpent grandissant à l'envers dans un tube à vide infini dépourvu de poids. Les visages détériorés que cela ne voit pas, je les pose sur la cime d'une très haute montagne, la montagne de ceux-là qui ne savent pas se retourner. Et puis, je suis quoi? Maintes montagnes qui se font chemins en granit se seront abattues en crachant du sang. Et ce chemin se fera reptile transparent pour se glisser dans les narines à bout de souffle de ceux-là. Tous les fardeaux du monde dans les pores de ma peau claire grandissent en revenant sur le temps entier de leur vie. Lorsque ceux-là vieillissent peu à peu en s'approchant de la montagne, le chemin étale peu à peu ses trous comme des taches. Ceux-là, je ne les suis pas. Ce que j'ai appris dans un trou est une vérité que, sur les traces que ceux-là ont laissées, des fardeaux plus gros que leurs ombres traînent sans fin. Des fardeaux abandonnés, qui en ont tant démesuré, et dont leurs propriétaires même ne savent rien. Et c'est là que croît toujours, en un instant, la mort, pareille à une conquête. Si ma nature humide se lève droit comme un bâton de commandement, je pourrais devenir roi de ceux-là, des morts plantés en pleine montagne. Mais qui suis-je? Pour tout moyen de purifier le corps, ceux-là n'ont appris que la plus sale forme d'excrétion. Même le plus remarquable fardeau, qui court tout en évitant quelques trous périlleux, ne devient rien qu'une couche de poussière qui se flétrit au loin. L'intervalle entre les trous se réduit. Entre eux passe le temps d'une eau toute blanche comme l'eau d'un sein. L'arrière-chemin de ceux-là qui s'effacent, attirés par la montagne, se glisse dans le précipice d'un trou extrêmement profond et s'affaisse. J'arrive, enfin. Ne me voit-il pas, ceux-là, grimper toujours sur leur dos dépouillé? Formation du sang blanc qui longe le bas de la montagne en rejoignant le bout du chemin. Cette montagne dépouillée qui a nourri maints végétaux en m'arrachant la peau. Cela, la voit-il toujours comme une cime s'élevant haut dans le lointain? Mille et mille trous se rencontrent, déchirant la chair. Cela, choix dans le trou de mon corps entier. Et que suis-je alors? Moi, qui possède un utérus dont la gueule baie au point d'avaler jusqu'au soleil. Je me permettre un mot de conclusion? Non, simplement, je voudrais redire à quel point nous, lecteurs de cette poésie, traducteurs-lecteurs, lecteurs en traduisant, c'est mon cas, nous avons l'impression que, en effet, la Corée du Sud, nous ne parlons pas de la Corée du Nord, la Corée du Sud, avec la poésie, sort d'elle-même vers nous. Et en effet, nous avons à recevoir les effets. C'est ça que veut parler d'une poésie. C'est pas simplement traduire, c'est recevoir des effets. Eddie Cadour, un des membres du comité, disait l'autre jour, après avoir lu ses poèmes, que ça agirait sur sa propre poétique, sur sa propre... Tu parlais de la question de la poésie. Et donc, la poésie coréenne du Sud fait pour nous partie, en effet, de ce mouvement par lequel la Corée du Sud participe à la globalisation, à la mondialisation, mondialisation qui se fait dans toutes sortes de registres, politiques, techniques, économiques, avec toutes sortes de contradictions, de conflits, de dangers, dont participe pleinement la Corée, en effet. Il ne s'agit pas de dresser des tableaux idylliques, mais la poésie est en effet dans ce mouvement de globalisation au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire de recherche de liberté. Je crois qu'on l'a senti tout de suite. Voilà.